Merci beaucoup. Je tiens aussi beaucoup à remercier les organisatrices et l'organisateur de ce colloque et du programme impérialitaire, notamment pour me donner la possibilité de parler une deuxième fois de la couronne d'Aragon. Alors, j'ai réduit un petit peu le sujet chronologiquement au XIIIe et à la première moitié du XIVe siècle, de façon à faire un peu système avec la communication qui vous a été présentée hier par Joan Molina. La couronne d'Aragon n'est pas un empire au sens strict. Vous avez ici une carte, mais certains moments et certaines facettes de son histoire présentent indéniablement des traits d'impérialité. Les rois d'Aragon règnent ainsi sur des territoires divers et en nombre croissant. On peut égrener les principaux pour mémoire. L'Aragon et la Catalogne depuis le milieu du XIIe siècle, Majorque en 1229, Valence à partir de 1238, la Sardaigne en 1323, Naples à partir de 1442, sans oublier bien sûr la Sicile, sous la seigneurie directe des rois d'Aragon à deux reprises. D'abord une longue décennie dans le sillage des vêpres siciliennes en 1282, puis de nouveau à partir de 1392, après un siècle sous la domination d'un rameau de la dynastie aragonaise. Ces royaumes et autres constructions politiques possèdent en outre chacun leurs propres droits et leurs propres institutions. Les langues parlées et celles dont on use pour communiquer avec le pouvoir royal sont nombreuses, le latin, l'aragonais, le catalan, etc. Mieux encore, et cela nous rapproche de notre sujet, sous Pierre IV d'Aragon, qui règne donc de 1336 à 1387, l'ordo même du couronnement qui est joint aux ordonnances royales établit, affirme, proclame même une comparaison entre la prise de la couronne et de leurs insignes par les rois à Saragosse, la capitale aragonaise, et la réception de la couronne par les empereurs à Rome. Durant ce même règne se multiplient également, on l'a vu hier, les références eschatologiques, plus ou moins voilées, aux dragons et aux chauves-souris, appelés à un bel avenir, en particulier à Naples, sous Alphonse le Magnanime. Des prophéties d'inspiration joachimite circulent, d'autres sont mises en écrit, notamment en Catalogne et dans le royaume de Valence. Les rêves d'empire, en lien avec une dimension eschatologique, deviennent sans conteste plus intenses, plus perceptibles dans la couronne d'Aragon à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle. Qu'en est-il auparavant ? Existe-t-il d'autres témoignages d'eschatologie ou de messianisme impérial pour le cas aragonais, et si oui, dans quelles circonstances, avec quelle signification et pour quels usages? Pour avancer quelques éléments de réponse dans cette direction, je propose ici, en première approche, d'examiner les projets de croisade dans lesquels sont impliqués les rois d'Aragon, des projets a priori favorables au croisement des horizons impériaux et eschatologiques du début du XIIIe siècle, donc dans le sillage de la prise de Jérusalem et des luttes contre les Almohades en péninsule ibérique, jusqu'aux années 1340, où on observe une remarquable coïncidence avec la montée sur le trône de Pierre IV d'Aragon, la peste noire, la guerre du détroit de Gibraltar et la montée en puissance des Ottomans au détriment des Mamelouks, ce qui change la donne pour les projets de croisade. Alors avant d'entrer un peu plus en matière, il convient tout d'abord de préciser de quel projet on parle ici. On peut distinguer, même si on nous a appris que la typologie était un exercice dangereux, quatre catégories principales non totalement hermétiques. Les premiers sont des projets de croisade vers Jérusalem et la Terre Sainte, portés par des rois. Les velléités sont fréquentes. Pierre II d'Aragon manifeste ainsi son désir de partir en croisade en 1203, mais le pape l'en décourage. Jacques Ier, son successeur, l'envisage aussi en 1244. Dans les faits, toutefois, une seule expédition est menée à bien, sur l'instigation du même Jacques Ier, en 1269, avec des résultats très modestes, j'y reviendrai. Une deuxième catégorie de projets de croisade a des effets beaucoup plus notables. Ce sont les guerres menées contre les puissances musulmanes en péninsule ibérique et au Maghreb, les Almohades, puis l'émirat de Grenade, pour l'essentiel. En employant le terme de croisade, je rejoins ici une grande partie de l'historiographie, ça a été évoqué à l'instant, qui reconnaît la pluralité des croisades, sans nier pour autant la singularité des combats menés en péninsule ibérique contre Al-Andalus et celle des entreprises de Terre Sainte. Certaines de ces expéditions, parmi les plus importantes, bénéficient en effet du soutien des papes, qui accordent, dès le XIIe siècle, régulièrement une forme d'équivalence des bénéfices pour les combats effectués en péninsule ibérique et pour la Terre Sainte, des papes qui concèdent des décimes, qui octroient des bulles de croisade et qui autorisent à ces fins la prédication dans la péninsule et même au-delà dans les régions limitrophes. C'est le cas en particulier pour les combats contre les Almohades qui mènent à la victoire de las Navas de Tolosa en 1212, puis pour les rois d'Aragon de la conquête de Majorque et de Valence. Des luttes menées conjointement avec les Castillans pour conquérir Murcie, pour réprimer des révoltes dans les années 1270, puis contre l'émirat de Grenade en 1308-1309, d'un projet inabouti de croisade toujours ibérique en 1329-1330, et enfin de la guerre du Détroit à la fin des années 1330. Troisième catégorie de projets de croisade, des projets de papier et de parchemin. Ils sont contemporains de l'atténuation des expéditions effectives vers la Terre Sainte. Ils fleurissent à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, en particulier à l'occasion du deuxième concile de Lyon en 1274 et plus encore dans le sillage de la chute d'Acre en 1291. Enfin, les rois d'Aragon font l'objet de croisades lancées contre eux par la papauté, qui octroie des indulgences à ceux qui poursuivent des souverains dénoncés comme hérétiques. Cela se produit à deux reprises, en 1212, lors de ce que l'on appelle la croisade albigeoise, où le roi d'Aragon, Pierre II, trouve la mort à la bataille de Muret pour avoir défendu son allié, le comte de Toulouse, puis, suite aux vêpres siciliennes, avec la croisade d'Aragon, où cette fois-ci, juste retour de la médaille, c'est le roi de France, Philippe III, qui trouve la mort de retour en France. Cette liste, somme toute assez nourrie de projets, ne doit pas faire illusion. Dans la péninsule, les rois d'Aragon sont des acteurs majeurs de la Reconquista et des croisades ibériques, tandis que pour l'Orient, l'échec est pour eux la règle et leur rôle reste secondaire. Alors pour se forger une opinion sur la place de l'eschatologie et du messianisme dans ces différents projets, on dispose de travaux solides au croisement de plusieurs champs d'études, la Reconquista, les croisades dites tardives, le messianisme royal. Je m'y référerai ensuite au cas par cas. Les sources disponibles, quant à elles, sont assez considérables et dispersées. Je me fonderai ici essentiellement sur les chroniques royales catalanes et aragonaises, les testaments des rois, les procès de Cortes, qui évoquent des expéditions militaires, les projets de croisade et des documents diplomatiques qui attestent de leur circulation. C'est un corpus incomplet, mais qui permet de faire ressortir l'inégale importance de la dimension apocalyptique selon les horizons temporels que l'on envisage. L'horizon de la mémoire et de la postérité des rois, celui des textes, des projets et des prophéties, celui enfin du temps des négociations des projets de croisade. Alors je commence par la fin, par la mémoire et la postérité de ces affaires, en procédant à rebours, en commençant par rechercher les traces de messianisme et d'eschatologie laissées par les rois à destination de leurs successeurs. Les testaments et les codicilles des rois d'Aragon, dont la plupart ont été édités, s'avèrent assez discrets à cet égard. Certes, les combats accomplis ou promis contre les infidèles sont évoqués, ça et là. Jacques Ier, dans son codicille du 20 juillet 1276, enjoint à son fils héritier, Pierre, le futur Pierre III, d'honorer la promesse faite au pape d'expulser les musulmans de sa terre. 22 ans plus tard, le 30 juillet 1298, Jacques II prévoit dans son troisième testament de déshériter son frère, Frédéric III, roi de Sicile, s'il continue à se ranger parmi les hérétiques en désobéissant au pape. Et dans son ultime testament, le 28 mai 1327, 6 mois avant sa mort, le roi ne manque pas de laisser des legs pour régler des dettes contractées dans le voyage d'Almeria en 1309 et pour le rachat des captifs sous le contrôle de puissances musulmanes. Les croisades, donc, n'apparaissent dans ces testaments qu'en filigrane. Dans ces textes à valeur éminemment performative, les préambules renvoient plutôt classiquement à la finitude, à la solitude de la créature face à son créateur, tandis que les références bibliques, qui émaillent ensuite les dispositions successorales, tendent ordinairement vers un seul et même but, la préservation de l'unité, l'indivisibilité des terres de la couronne. Plus que l'Apocalypse de Saint Jean ou Daniel, c'est l'évangile de Luc qui importe et qui revient comme une antienne. « Omne regnum in se divisum desolabitur »« Tout royaume divisé connaîtra la désolation » et c'est cela que l'on veut éviter. Les chroniques royales, pour leur part, sont plus désertes. Comme l'ont montré Jaume Aurel et Stefano Maria Cingolani, elles relèvent pour l'espace catalano-aragonais de genres différents. Il y a des annales, comme les Gesta Comitum Barquinonensium, des chroniques universelles, telles le livre du roi Pierre, le Libra del Rey Pera, en catalan, ou la chronique dite de San Juan de la Peña, mais aussi des autographies royales. de formes variées, le livre des faits de Jacques Ier, le livre de son descendant Pierre IV d'Aragon, ou bien encore l'heureusement inclassable chronique de Ramon Muntaner. Ces textes ont été composés entre la fin du XIIe siècle et les années 1370, et ils se rejoignent, par-delà leurs différences, sur un certain nombre de points essentiels qui nous importent ici. Le rôle joué par la Providence et par Dieu dans l'histoire de la maison aragonaise, le souci partagé de s'inscrire dans le sillage des prédécesseurs, de continuer, de perfectionner leur œuvre. Et dans la perspective adoptée ici, je voudrais insister plus particulièrement sur trois aspects qui sont récurrents dans ces textes historiographiques. Tout d'abord, le caractère structurant dans ces narrations des conquêtes effectuées aux dépens des musulmans, au moins jusqu'au début du XIVe siècle. Dans les Gestas, comme dans le Livre des Rois, la lutte contre les infidèles apparaît comme essentielle à la fama de la lignée. Elle est nécessaire pour des rois qui se veulent les émules de leur père dans leur mission ininterrompue d'accroissement de la couronne. Bernard Desclot, qui écrit l'histoire du roi Pierre III d'Aragon, donne ainsi pour objet à son livre, je cite, « les grands faits, les conquêtes aux dépens des Sarrasins, Sarraïns, et d'autres gens accomplis par les nobles rois qu'il y eut en Aragon, issus du lignage du comte de Barcelone ». Fin de la citation. Une telle ossature narrative est propice à l'insertion de nombreux éléments à caractère impérial, et on se rapproche progressivement de notre sujet. La présentation du lignage s'ouvre ainsi souvent par un rappel des liens avec des familles d'empereurs. Le comte de Barcelone, Ramon Berenguer III, épouse chez Bernard Desclot l'empereur de Castille, de l'empereur de Castille, Alphonse VII. Le lignage est pour Muntaner le plus haut du monde, comme celui issu de la maison de l'empereur. Et tous deux se réfèrent bien sûr à l'union de Pierre III avec Constance Hohenstaufen, la fille de Conradin, en 1262. Des légendes accentuent la tonalité impériale. Bernard Desclot évoque ainsi celui qu'il appelle le bon comte de Barcelone, un noble qui, apprenant que la femme de l'empereur a à tort été accusée d'adultère, se précipite à Cologne pour pouvoir la rencontrer, vérifier qu'évidemment il n'en est rien, proposer de la défendre par sa participation à des combats singuliers et évidemment la sauve de l'exécution à laquelle elle était promise. Jamais, ajoute et conclut Desclot, dit l'empereur, la couronne de l'Empire n'a eu un aussi grand honneur que vienne d'une terre aussi lointaine un comte aussi honorable pour empêcher une telle déloyauté. La comparaison des rois avec Alexandre est également fréquente. Pierre d'Aragon est pour Desclot le second Alexandre par chevalerie et par conquête. Et Muntaner met souvent cette figure alexandrine dans la bouche de Charles d'Anjou, en guise d'hommage à son meilleur ennemi, le roi d'Aragon. Donc, sans être jamais désignés comme des empereurs, à la différence de leurs voisins castillans, on l'a vu hier, qui portent parfois et peuvent revendiquer ce titre, les rois d'Aragon deviennent, pour Muntaner, une sorte d'hyperbole de la royauté, susceptible de s'étendre à tout l'orbe terrestre. Ces rois sont non seulement, je le cite, les meilleurs seigneurs et chevaliers du monde, mais pour peu qu'ils s'unissent avec leurs parents de Majorque et de Sicile, rassemblant ainsi les trois faisceaux de Jonc, la Mata des Jonc, ils seront alors souverains, je le cite, sur tous les rois du monde et princes, chrétiens comme sarrasins, et même sur toutes les communes. Cet horizon rêvé d'un empire et d'une souveraineté tricéphale ouvrirait même, selon Muntaner, la perspective d'une reprise de la Terre Sainte. Je cite, « Le Saint-Père ferait bien, laissant tous les autres rois du monde, de s'unir à eux. Ceux-ci, avec la monnaie du trésor de l'Église, reprendraient la terre d'outre-mer et abattraient les infidèles. » Néanmoins, chez Muntaner, comme chez ses prédécesseurs, ce projet n'est pas développé. À l'instar des grandes batailles, l'issue de la croisade dépend ici en fait du seul jugement de Dieu. Quelques décennies auparavant, l'approche de Jacques Ier d'Aragon dans son livre des faits ne différait guère. Quand il évoquait longuement, en 18 chapitres, sa croisade piteuse en Terre Sainte, piteuse parce qu'en fait, il s'est arrêté à Aigues-Mortes, était repoussé par la tempête, et ce sont uniquement deux de ses fils bâtards qui se sont rendus à Acre pour y combattre, là aussi de manière assez médiocre, eh bien, lorsqu'il évoquait cela, c'était, à l'instar des troubadours qui l'exhortaient au voyage, Cerveri de Girona, Olivier le Templier, pour critiquer ceux qui ne faisaient rien, ceux qui, tel le pape, lui refusaient leur aide, au prétexte qu'il vivait dans le péché d'adultère. C'était enfin pour expliquer son échec comme le fruit de la volonté divine, sans doute en ce cas en lien avec le modèle de Jonas, le prophète fugitif, obligé par la tempête et le monstre de retourner dans la terre de Ninive. Donc dans les chroniques plus que dans les testaments, Les croisades sont donc présentes. Le terme même de croada apparaît assez fréquemment, de façon précoce, hein, par rapport à ce que l'on peut observer ailleurs en Occident. Et l'existence des liens avec l'Empire et de traits impériaux est soulignée avec force. Néanmoins, l'horizon de la postérité demeure celui de la providence, de l'exaltation du lignage et des prouesses chevaleresques, sans élever de façon nette la figure royale à un rôle messianique ou eschatologique. Alors j'en viens à mon deuxième temps, projet et prophétie, ou de l'ambivalence des figures eschatologiques du roi. Les textes des projets de croisade et des prophéties révèlent des situations plus contrastées par rapport à ce que l'on vient de voir. La plupart des projets composés au tournant des XIIIe et XIVe siècles réservent tout d'abord au roi d'Aragon une part ténue. J'étais déçu lorsque j'en suis arrivé là. Par exemple, dans son conseil sur le second passage de 1306, Jacques de Molay conseille au pape de traiter avec le roi d'Aragon pour préparer le voyage, rien de plus. Un mémoria anonyme de 1308 en appelle à sa flotte, mais sans là non plus s'étendre plus avant. Pierre Dubois, dans le De Recuperatione Terrae Sanctae, reconnaît la valeur des combattants de la péninsule ibérique, en particulier des Almogavers, et estime que le roi doit œuvrer à la reconquête de Grenade, étape pour la Terre Sainte. Pour autant, dans ces différents projets, les rois d'Aragon sont des rois parmi d'autres, sans charisme, sans dimension impériale ou eschatologique particulière. Deux auteurs contemporains et logiquement originaires de la couronne d'Aragon tranchent à cet égard, Ramon Llull et Arnaud de Villanova, Raymond Llull et Arnaud de Villeneuve dans l'historiographie française. Tous les deux sont initialement plutôt opposés à de tels projets, mais leur position évolue de façon nette et parallèle entre la dernière décennie du XIIIe siècle et la première du XIVe siècle. Et ils finissent par, à leur tour, proposer des projets de croisade. Llull s'intéresse à plusieurs reprises à cette question, au bénéfice toujours d'une conversion souhaitable et en adaptant ses projets à ses destinataires et aux circonstances de leur énonciation. Le premier texte qui nous intéresse ici, c'est le Livre de la fin, le Liber de Fine, composé en 1305. Un titre qui renvoie peut-être, selon Pamela Beattie, à la fois à son objectif et à une dimension apocalyptique. Il compare en tout cas son époque à celle du christianisme primitif, en appelant au martyr qui seul peut de nouveau purifier et faire croître l'Église. Dans cet état d'urgence, Ramon Llull se lamente. « Seigneur, juste juge, voici un par un ceux auxquels j'ai dit et même signifié par écrit et montré le moyen par lequel, s'ils l'avaient voulu, ils auraient pu convertir les infidèles, les réduire à une même unité spirituelle, celle de notre foi, en récupérant la très vraie sépulture avec la cité de Jérusalem et la Terre Sainte. » Sa solution consiste à faire appel à un roi. Cela ne va pas de soi. Il ne le nomme jamais, mais il dresse une sorte de portrait chinois qui correspond parfaitement au roi d'Aragon Jacques II à ce moment-là. Il doit déjà avoir lutté contre les musulmans, être amiral, ce qu'est Jacques II pour l'Église depuis 1297 et la bulle Redemptor Mundi, suivre la voie ibérique de la croisade, puis rejoindre la Terre Sainte. Et dans le Liber, il est un roi de guerre, un Bellator Rex qui dirige dans les combats un ordre militaire unique. Alors, ce qui est intéressant avec Ramon Llull, c'est que cette figure du Rex Bellator n'est pas figée. Quatre années plus tard, dans le Liber de Adquisitione Terrae Sanctae, il recommande désormais de soumettre l'entreprise de croisade au pape, en se référant à la donation de Constantin, après avoir mis fin à la division des empires et en obtenant l'accord des quatre rois de la péninsule ibérique pour acquérir Grenade, pardon, mais en excluant explicitement le roi de la direction de cette entreprise de croisade. Notre deuxième témoin, Arnaud de Villanova, est contemporain de Raymond Llull. Il est à la fois médecin, alchimiste, conseiller politique, proche des franciscains spirituels et rédacteur de multiples textes adressés à des rois et à des papes. Très intéressé par la figure de l'Antéchrist, il ne soutient que progressivement, lui aussi, la croisade. Elle est presque absente, par exemple, du De Tempore Adventus Antichristi, son grand texte sur l'Antéchrist, et devient centrale seulement dans ce que l'on appelle le Raonament d'Avignon, le raisonnement ou le discours d'Avignon, un discours qui a été tenu devant le pape en 1309, mais que l'on connaît par son explicitation effectuée à Almeria devant le roi Jacques II d'Aragon, alors même qu'il est en train de combattre pour reprendre cette cité aux musulmans. Arnau de Vilanova y défend un projet de croisade conjointe, porté par deux frères, les rois Jacques II d'Aragon et Frédéric III de Sicile, le premier attaquant les musulmans par la péninsule ibérique, le second, évidemment, par la voie orientale, qui doit, in fine, également lui permettre d'obtenir le titre de roi de Jérusalem. L'inscription dans un horizon apocalyptique est claire ici. Dans le siècle actuel, dont déjà 9 années ont passé, le monde se finira, l'année et le jour que connaît Dieu. Et le plus grand antéchrist qui soit aura accompli son œuvre dans les 40 premières années de ce siècle. Et ceci est sur le point d'être manifesté par les révélations divines écrites dans la Bible et dans d'autres écritures célestes. Après avoir dénoncé les chrétiens devenus, selon lui, des musulmans, par leur comportement et leurs attaques contre la pauvreté évangélique qu'il défend, il est proche des spirituels, il précise ce qu'il attend des rois d'Aragon et de Sicile. Dieu les a inspirés et unis dans son esprit pour qu'ils promeuvent partout la vérité du christianisme, parmi les catholiques, les schismatiques et les païens, de sorte que, selon la justice évangélique, ils entendent user de deux glaives, l'un spirituel et l'autre corporel, et ils proposent de poursuivre en cette voie jusqu'à ce que le sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ soit restitué aux chrétiens et que la secte de Mahomet soit anéantie. Et Arnau de Vilanova de poursuivre son éloge de roi qui, par la vente de joyaux, par la lutte contre les musulmans de Grenade, par la conversion également de leurs mœurs, se sont engagés dans la lutte. Les rois d'Aragon et de Sicile ne sont pas ici assimilés explicitement à l'empereur des derniers temps, mais ils assument un rôle messianique. Ils se complètent dans ce projet ou bien sont envisagés comme interchangeables. 2 années plus tard, en effet, dans l'Informatio Espirituale, information spirituelle, un guide de comportement idéal, de comportement princier idéal que Arnau de Vilanova remet à Frédéric III de Sicile, il précise « Et bien que tout prince chrétien me paraisse bon pour cela, la croisade, et que, quel qu'il fût, je m'en réjouirais autant que s'il était mon fils, l'amour naturel me conduit à désirer et à agir pour que ce soit vous, Frédéric III, ou votre frère, Jacques II d'Aragon, qui accomplissent cette tâche. Mais je vois clairement que Dieu vous appelle spécialement à ce ministère, et s'il ne se trouve pas en vous, il veut vous donner cet honneur. L'essentiel est donc que l'œuvre soit accomplie, et les rois n'en sont que les ministres dans la perspective d'Arnau de Vilanova. » Alors, au-delà de leur singularité, les écrits d'Arnau de Vilanova participent d'une valorisation et d'une diversification très notoire du rôle assigné à la maison d'Aragon dans les textes à caractère prophétique envisageant les derniers temps au tournant du XIIIe et du XIVe siècle. Cet aspect a déjà été très bien mis en évidence par les historiens, notamment le père José Pau y Martí, Martí Aurel, Sébastien Giralt, Joseph Perarnau, David Burr et dernièrement Isabelle Rousseau-Jacob, sur lesquels je me fonde pour cette partie de mon exposé. D'après ces travaux, la conquête de la Sicile par Pierre III a constitué un moment d'inflexion majeur. D'une part, en favorisant la diffusion du joachimisme dans les territoires d'une couronne d'Aragon qui, auparavant, semble n'y avoir été que fort peu réceptive, et d'autre part, c'est pour cela que c'est un petit peu complexe, en suscitant l'élaboration hors de la couronne, en Languedoc, en Italie notamment, de nombreux textes à caractère apocalyptique où la figure du roi d'Aragon endosse un rôle plus important que ce n'était le cas précédemment. Dans ces deux cas, le développement du mouvement polymorphe des franciscains spirituels et l'accueil favorable que leur réserve la famille royale, allant parfois jusqu'à un engagement très poussé chez certains de leurs membres, s'avère également déterminant. Pour autant, il me semble que l'historiographie a peut-être trop considéré ce mouvement, ce que Martin Aurel appelle un déversement de manuscrits et de traditions orales prophétiques, comme un flot continu alimentant de façon régulière une propagande royale aragonaise aux contours somme toute problématiques jusqu'au milieu du XIVe siècle. Ça aurait même, toujours selon Martin Aurel, alimenté la constitution, qui à mon avis est limitée et contestée, de l'État dans la couronne d'Aragon. Alors, je pense qu'il y a 2 précisions qui peuvent nous éclairer à cet égard. La première, elle a été formulée clairement, nettement par Isabelle Rousseau-Jacob, qui préfère à l'expression de prophétie politique celle de prophéties apocalyptiques, de façon à ne pas enserrer ces textes dans la gangue de leurs usages postérieurs, à leur restituer toute leur charge potentielle. La seconde remarque part d'une observation. D'Arnao de Vilanova, au début des années 1310, à Jean de Roquetaillade, au milieu des années 1340, à la peste noire en fait, il ne subsiste à ma connaissance guère de traces de prophéties royales ou de leurs usages par le pouvoir royal aragonais. Il me semble qu'on peut donc formuler l'hypothèse d'une pause consécutive à la condamnation des spirituels par le pape Jean XXII en 1316, ou bien d'un effet de source qui serait lié à une damnatio memoriae de ces prophéties. En tout cas, une chose est claire, si l'imaginaire apocalyptique développé dans le sillage des vêpres siciliennes fait une place accrue au roi d'Aragon, l'inscrit de façon plus ou moins explicite dans le sillage impérial des Staufen, qui tranche avec une période antérieure où ce type d'allégation est beaucoup plus rare, la figure même qui lui est réservée dans les récits diffère considérablement. Chez Salim Bene de Adam, par exemple, Pierre III dévore le dragon angevin. Alors que dans le Vaemundo, dont il a été question hier, c'est un roi vespertillo et dévoreur de mouches, hein, les mouches renvoyant ici aux musulmans. Comme l'ont montré les historiens que j'ai cités précédemment, il existe donc une tension latente entre le roi d'Aragon, avatar de Néron, et une figure eschatologique de tradition impériale plus positive. On pourra ajouter que cette réversibilité dans l'imaginaire apocalyptique n'est pas à leur propre au seul roi. Philippe de Majorque, de la même famille royale aragonaise, l'un des leaders spirituels au début du XIVe siècle, a ainsi tour à tour et parfois dans les mêmes milieux pu être qualifié de figure angélique et comparé à l'Antéchrist. Les temps derniers semblent donc propices à ce type de retournement qui permettent de réinterpréter, d'actualiser non seulement les prophéties, mais aussi l'histoire en cours. Et j'en viens donc au dernier temps de mon exposé, celui des négociations pour les projets de croisade. Avec la prédication, un thème qui est sans doute insuffisamment étudié pour les croisades ibériques, c'est là, à mon avis, un champ majeur pour envisager la performativité des écrits, des discours et plus généralement des œuvres à caractère eschatologique, messianique ou prophétique. Le recours à des figures impériales, inscrivant les rois d'Aragon dans un tel horizon, peut, pour ce qui concerne les négociations, être traqué dans au moins trois directions complémentaires à travers la documentation. Les tractations des rois, avec la papauté et avec d'autres souverains de chrétiens en vue de préparer la croisade, celles menées avec leurs sujets dans le même but, et celles mises en œuvre, enfin, par ceux que l'on peut qualifier d'entrepreneurs de croisade. Le domaine est vaste et je vais simplement donner ici un aperçu exploratoire de quelques recherches qui me semblent possibles de développer par la suite. Alors c'est tout d'abord par la documentation des assemblées, les cortes, que l'on suit le mieux les négociations du roi avec les États pour obtenir des subsides de croisade. La rhétorique fiscale comporte toutefois, dans les documents conservés et pour la période observée, peu d'arguments théologiques développés. En 1333, il s'agit pour le roi d'Aragon simplement d'obtenir en Catalogne une ajuda, une aide contre les morts. En 1340, un auxilium, une aide toujours, pour la guerre contre, je cite, hein, pour la guerre contre le mort et les perfides sarrasins. Tout au plus, les villes répondent-elles qu'elles donneront leur aide pour la guerre contre les morts, citation, pour l'honneur et pour la gloire de la Sainte Trinité et l'exaltation de la Sainte Foi catholique, pour l'honneur du roi et l'exaltation de sa couronne royale et le profit et le bon état de la terre. Alors, ces formulations n'entrent pas en contradiction avec un possible horizon eschatologique, mais elles ne le déroulent pas, elles ne l'explicitent pas. Pour la diplomatie, le paysage documentaire s'enrichit considérablement à partir de la fin du XIIIe siècle et permet d'examiner plus en détail les éventuelles articulations entre discours eschatologique et pratique de la négociation. On se rapproche de l'eschatologie pragmatique qui avait été évoquée par Jean-Louis Fournel hier. Je prendrai rapidement deux exemples liés entre eux pour illustrer cet aspect, en revenant d'abord à Arnao de Vilanova. Celui-ci n'a pas seulement composé des projets pour exhorter à la croisade, il a aussi œuvré comme ambassadeur ou comme intermédiaire auprès du roi d'Aragon, des papes, du roi de Sicile, en jouant sur une double parole. C'est une pratique courante chez les ambassadeurs, la parole de son mandant ou de ses mandants et sa parole propre. Il est à ce titre remarquable que ses propos, en quelque sorte, infusent dans les correspondances royales. Les échanges de Frédéric III et de Jacques II en 1309-1310 en attestent. Alors chacun, bien sûr, traditionnellement, proteste de son engagement en faveur du Christ et du Saint-Sépulcre. Il serait pour nous deux, écrit Frédéric, plus amer que la mort que ceux qui blasphèment le Seigneur possèdent son sépulcre et le tiennent dans une servitude ignominieuse. Bon, ça, c'est pas très surprenant. Jacques II, gonfalonier amiral de l'Église depuis 1297, lui répond aussi tout à fait logiquement par sa joie, en manifestant sa joie de le voir s'engager dans la lutte pour exterminer les peuples qui blasphèment le Christ. Mais au-delà, leurs lettres laissent transparaître le caractère essentiel de l'union, unio, c'est le terme qui revient sans cesse, reprenant en fait un mot clé du discours arnaldien, qui a été celui qui a fait circuler ces projets entre les rois d'Aragon et de Sicile. Une union qui doit se traduire par un mouvement de prise en étau de l'islam par l'Occident hispanique et par l'Orient. Alors pour autant, cette imprégnation du langage et de la perspective arnaldienne dans les correspondances royales ne signifie pas qu'elle soit pleinement efficace. La performativité est un terme magique, mais il a aussi ses limites. Le roi d'Aragon refuse ainsi de soutenir en Orient une croisade qu'il juge mal engagée. Enfin, ces projets peuvent devenir eux-mêmes objet de négociations entre les souverains. L'histoire des tentatives de résolution du conflit entre Aragonais et Angevins en offre une bonne illustration. Après trois décennies de conflits et de trêves avortées, le roi d'Aragon dépêche en 1326, pour la Reformatio Pacis, des ambassadeurs emportant avec eux pas moins de 7 projets de paix, les Formes de Pau, retrouvés dans les archives royales et qui doivent être présentés au pape comme aux belligérants. Et dans ces projets très complexes, les territoires à conquérir constituent une monnaie d'échange parmi d'autres dans les négociations. On aura ainsi tour à tour pensé à remettre à Frédéric III, pour le compenser de la perte de la Sicile, le royaume d'Albanie et la Morée, le royaume de Murcie, contrôlé par les Castillans, et même Tunis, sous le contrôle des Hafsides, pourvu qu'il en assure lui-même la conquête. L'horizon de la croisade ne disparaît donc pas complètement, mais le roi d'Aragon n'entend pas s'imposer ici en rex bellator, comme c'était souhaité par Raymond Lulle, mais comme un roi de paix au sein de la chrétienté. Ce projet, qui, comme les autres, échouera, est révélateur de l'imagination débordante déployée par ces différents acteurs pour tenter de trouver la paix, une imagination qui, sans nier l'importance des perspectives eschatologiques ou apocalyptiques ou messianiques, la met, au moins pendant un temps, entre parenthèses, au bénéfice d'une paix plus immédiate. Et c'est somme toute logique. On peut bien négocier les conditions d'une croisade, mais plus difficilement celles de l'avènement des derniers temps. En examinant les projets de croisade des rois dans la longue durée et dans leurs différentes temporalités, celles de la négociation préparatoire, celles des textes eux-mêmes, de leur postérité, enfin, c'est finalement la diversité des figures et des usages qui ressort. Diversité des figures, car le roi est tour à tour rex bellator, rex pacis, dragon et chauve-souris. Diversité des usages, selon les rois, avant ou après le mariage Staufen, avant ou après la conquête de la Sicile, selon enfin les jugements portés par les papes sur les franciscains, et selon encore, et peut-être surtout, le registre d'expression dans lesquels les projets de croisade sont évoqués. Sous ces formes diverses, l'impérialité des rois d'Aragon et le fait qu'un rôle leur revienne dans les derniers temps est assurément une croyance, du moins un souhait, pour certains avant le milieu du XIVe siècle, mais un horizon auquel on ne croyait peut-être pas suffisamment pour le transmettre aux successeurs. C'était aussi une ressource, car évoquer en filigrane la fin des temps dans les négociations pouvait conférer une autorité supplémentaire à des rois qui en avaient bien besoin, de ce surcroît de légitimité en raison de contestations intérieures et de leurs oppositions récurrentes avec la papauté. Cela a-t-il été efficace ? Bien, d'autres études, j'espère avant la fin des temps, devraient permettre d'en prendre la mesure.